À l'écoute de RFI 20h, ici à Paris, 18h, en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et j'ai l'honneur à présent d'accueillir Christophe Pagé pour le grand journal du soir. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, eh bien la condamnation de Marine Le Pen.
Oui, 5 années d'inéligibilité avec effet immédiat pour la chef de file de l'extrême droite française. Également 4 ans de prison dont 2 fermes. C'est dire si Marine Le Pen ne pourra pas en l'état participer à la présidentielle de 2027. En France, la classe politique est partagée. De l'étranger, Marine Le Pen a rapidement reçu plusieurs soutiens, entre autres de certains dirigeants européens. Le séisme en Birmanie et en Thaïlande où plusieurs centaines de personnes sont toujours coincées sous un immeuble en construction qui s'est effondré à Bangkok. Les premiers tests montrent que l'acier utilisé était de qualité inférieure. À suivre le reportage de Carole Izou.
Et puis un sommet à Londres sur la lutte contre l'immigration clandestine.
Sont réunis depuis ce matin les représentants d'une 40aine de pays. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé la communauté internationale à s'unir pour éliminer les réseaux de passeurs.
Et c'est donc un coup de tonnerre, Marine Le Pen déclarée inéligible.
Oui, celle qui devait être la candidate du Rassemblement National pour la présidentielle de 2027, celle qui caracolait en tête des sondages pour ce scrutin, en un mot Marine Le Pen, eh bien la chef de file de l'extrême droite française a été condamnée ce matin à 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat. Condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds dans le cadre de l'affaire des assistants du RN au Parlement européen. Marine Le Pen écope aussi de 4 ans de prison, dont 2 fermes qui ont été aménagées. Ce sera sous bracelet électronique. Le verdict est donc lourd. Pour l'instant, Marine Le Pen ne peut pas se présenter à la prochaine présidentielle. Alors, comment la classe politique française a-t-elle accueilli ce séisme? Le reportage à l'Assemblée nationale d'Aurélien Devernois.
On est évidemment choqué, extrêmement furieux.
Christophe Tchourek cherche ses mots. Le sénateur Rassemblement national encore ébahi par la condamnation de Marine Le Pen.
On ne pensait pas finalement que 3 juges iraient jusque-là, c'est-à-dire confisquer finalement l'élection présidentielle, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de ça.
Un argument qui a le don d'exaspérer la patronne des écologistes, Marine Tondelier.
Quand, comme Marine Le Pen, on aspire, ou plutôt on aspirait, à les fonctions les plus hautes de l'État, eh ben, on doit être exemplaire.
Marine Le Pen trouve en revanche du soutien chez les Républicains et chez leur président, Laurent Wauquiez.
Il n'est pas sain que dans une démocratie, une élue soit interdite de se présenter à une élection. C'est les Français qui doivent décider. Et c'est comme ça, normalement, que ça doit se passer.
Et la condamnation provoque également un certain embarras chez le député insoumis Aurélien Taché.
La priorité pour nous, c'est de les battre dans les urnes. La justice prend finalement sa décision. Nous interrogeons effectivement sur la manière de rendre tout ça plus démocratique.
Pas d'hésitation, en revanche, de son collègue modem, Erwan Balanant.
Que certains en soient choqués, en soient désolés, je peux les comprendre, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi.
Erwan Balanant, apparemment moins déconcerté que son chef de parti et actuel Premier ministre, François Bayrou, s'est déclaré cet après-midi troublé par l'énoncé du jugement.
Le Conseil supérieur de la magistrature dit, lui, ce soir, son inquiétude face aux réactions virulentes qui accompagnent la condamnation de Marine Le Pen. Le Conseil cite, par exemple, les prises de parole de politiques sur le bien fondé des poursuites ou de la condamnation. Tout cela, selon le CSM, est de nature à remettre en cause gravement l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et encore, le Conseil ne prend pas en compte ce qui a été dit à l'international, parce que là aussi il y a eu des réactions, beaucoup de réactions. Dans les minutes qui ont suivi l'énoncé du jugement, Marine Le Pen a reçu plusieurs soutiens venus de l'étranger. Anastasia Becchio.
Le slogan « Je suis Marine » lancé par le Premier ministre hongrois Viktor Orban a été repris par Milorad Dodik. Les tribunaux sont devenus les outils de ceux qui craignent la démocratie, dénonce le chef politique des Serbes de Bosnie, lui-même sous le coup d'un mandat d'arrêt pour attaque à l'ordre constitutionnel. Même tonalité du côté du candidat nationaliste favori du premier tour de la présidentielle en Roumanie, Georges Simion, qui estime que la France cible ou anéantit ses adversaires politiques. Le chef du parti espagnol Vox, Santiago Abascal, dénonce une tentative de museler l'opposition. En Italie, Matteo Salvini, le vice-premier ministre, voit dans cette condamnation une déclaration de guerre de Bruxelles. Les peines n'avaient pas encore été prononcées à Paris qu'à Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, pointait une violation des normes démocratiques lors d'un processus politique, tout en précisant que la Russie ne voulait pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la France. Le chef du parti d'extrême droite à la tête de la coalition néerlandaise, Geert Wilders, déclare être choqué par cette condamnation qu'il juge incroyablement sévère. Enfin, outre-Atlantique, Elon Musk dénonce un abus du système judiciaire pour emprisonner les opposants, mettant en garde contre un retour de bâton.
Marine Le Pen va faire appel de sa condamnation. Elle doit s'exprimer ce soir sur TF1. De son côté, le chef du RN, Jordan Bardella, appelle à une mobilisation populaire et pacifique.
Et notre édition spéciale à suivre dans une dizaine de minutes sur Radio France Internationale pendant environ trois quarts d'heure. On va suivre évidemment ce que dit Marine Le Pen ce soir sur TF1. On fera réagir nos correspondants dans le monde entier et nos invités politiques. Autre grand titre de ce lundi, la Birmanie, une semaine de deuil, Christophe Pagé, c'est ce qu'annonce la junte après le tremblement de terre de ce vendredi.
Oui, tremblement de terre qui a fait plus de 2000 morts, selon un bilan toujours provisoire, les experts craignent des milliers de morts supplémentaires. En Thaïlande, à Bangkok, la tension se porte sur un immeuble effondré de 30 étages, où ont été ensevelis une centaine de personnes, en majorité des ouvriers du bâtiment, étrangers, venus de Birmanie et du Cambodge. Des milliers de volontaires sont mobilisés pour venir en aide aux victimes et à leurs familles. Sur place, Carole Izou.
Quelques camions qui déblaient avec précaution un immense tas de débris, de peur de faire s'écrouler tout l'édifice. Plus le temps passe, plus les chances de trouver des survivants sont minces. Pourtant, certains veulent y croire encore. Derrière les secouristes, c'est toute la société thaïlandaise qui est rassemblée. Des anonymes viennent sur le chemin du bureau déposer de la nourriture et de l'eau. D'autres proposent leur aide au nettoyage.
Tous ceux qui ont un peu de temps et d'énergie peuvent venir aider, chacun avec ses compétences et son savoir. Il y a des infirmières, des ouvriers, des hommes d'affaires, tous ceux qui ont quelque chose à sacrifier pour soigner des blessés, porter des sacs de gravats, faire à manger pour les équipes. Cette catastrophe nous rassemble. Par exemple, en temps normal, on entend souvent des choses négatives sur les Birmans ou les Cambodgiens qui viennent travailler en Thaïlande. Là, on ne s'occupe pas de savoir qui est Thaï, Birman ou Cambodgien. On aide toutes les victimes, sans discrimination.
Des questions émergent. Pourquoi cet immeuble est-il le seul de la ville à s'être écroulé ? Des premiers tests montrent que l'acier utilisé pour l'édification était de qualité inférieure. La société de construction Sinothaï, responsable des travaux, avait déjà été épinglée pour soupçon de corruption il y a quelques mois. Le gouvernement promet des réponses. Jadel Khoury, Carole Izou, Bangkok, RFI.
Et à Mandalay, la deuxième ville de Birmanie cette fois. Mandalay qui était proche de l'épicentre du séisme. Les funérailles de centaines de victimes étaient prévues ce lundi. Ce lundi alors que la communauté musulmane endeuillée doit fêter l'Aïd qui marque la fin du mois de Ramadan. Dans la bande de Gaza, c'est sous les bombes que se fait l'Aïd. Avec des images terribles d'enfants tués par les frappes israéliennes, des enfants alignés dans les hôpitaux et les morgues. Quelques 1000 Palestiniens ont été tués par Israël durant les deux dernières semaines dans la bande de Gaza. C'est ce qu'annonce ce lundi le Hamas. Le bilan depuis le début de la guerre dépasse les 50 000 morts. Alors, comment célébrer l'Aïd en pleine tragédie? Reportage à Gaza, Ramiel Megari avec Sami Boukhalifa depuis Jérusalem.
Un vieux trampoline planté au milieu des décombres à Gazaville. La structure est maintenue par des cordes emmêlées. La toile, distendue, rebondit assez mal. Mais elle fait le bonheur de la petite Almas, 8 ans. Tous les jours, je viens jouer ici. Le trampoline appartient à ce monsieur qui nous laisse jouer gratuitement. Le monsieur en question, c'est Rajab. Autrefois, il était propriétaire d'un petit parc avec différentes attractions pour les enfants. Détruit, comme tout le reste à Gaza. Ces enfants ont vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Seuls les petits Syriens et Irakiens ont peut-être enduré les mêmes épreuves. Donc on essaye de les divertir comme on peut. J'ai perdu ma seule source de revenus, mais ce n'est pas grave. Je le fais pour les enfants. Pas de trêve pour l'Aïd, les bombardements israéliens se poursuivent. Gaza en deuil, la mort présente à chaque coin de rue, raconte la petite Almas. En chemin pour venir ici, j'ai vu deux personnes décédées, portées par leur famille. J'aimerais tellement que cette guerre s'arrête. Plus personne ne mourra et on pourra tous rentrer chez nous. La fillette est originaire de Beit Lahia, dans le nord de l'enclave. Sa famille a regagné cette région durant la trêve, mais leur répit a été de courte durée. La reprise des bombardements israéliens le 18 mars les a contraints à fuir de nouveau. Ramiel Merali, Gaza, Sami Bourfi, Jérusalem.
Et le Hamas appelle quiconque pouvant porter des armes à combattre n'importe où le projet du président américain Donald Trump concernant la bande de Gaza, la vider de ses habitants et en prendre le contrôle. Pendant ce temps, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou désigne un nouveau chef du Shin Bet, la sécurité intérieure, et ce, à la surprise générale, puisque la Cour suprême le lui avait interdit. Son prédécesseur, Ronen Bar, limogé par Benjamin Netanyahou, reste quand même en fonction en attendant l'examen de plusieurs recours devant justement la Cour suprême.
Les États-Unis qui multiplient les mesures contre le Venezuela, qui on va le rappeler, hein, dispose des plus importantes réserves de pétrole au monde.
Oui, le gouvernement américain a déjà révoqué le mois dernier la licence du géant pétrolier des États-Unis, Chevron. Il a également menacé de 25% de droits de douane supplémentaires les pays qui importent du pétrole vénézuélien. Et vendredi, on a appris que les autres multinationales qui exploitent des hydrocarbures dans le pays doivent elles aussi cesser leurs activités. Justine Fontaine.
Après Chevron, c'est donc l'espagnol Repsol, l'italien Eni ou encore le français Morel et Prom qui voient leur licence révoquée par Washington. C'est la suite d'une série de mesures de l'administration Trump contre le Venezuela. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain avait donné jusqu'à la fin mai à Chevron pour plier bagages. La compagnie est à l'origine de près d'un quart de la production vénézuélienne de pétrole. Les autres multinationales dont le permis vient d'être révoqué n'en produisent pas autant. Mais la fin des licences pétrolières devrait encore réduire l'accès de Caracas aux devises étrangères et fragiliser une économie qui a renoué avec la croissance en 2021 après 8 ans de très grave crise. L'an dernier, la hausse de la production de pétrole, celle de Chevron notamment, a été pour beaucoup dans la croissance vénézuélienne. Les sanctions américaines adoptées en 2019 ont été temporairement assouplies sous Joe Biden dans l'espoir d'une ouverture démocratique qui n'a finalement pas eu lieu. La Maison-Blanche cherche donc à accentuer la pression contre Caracas. Washington reproche par ailleurs au gouvernement vénézuélien de s'opposer au rapatriement de migrants expulsés des États-Unis.
En Espagne, 5 morts et 4 personnes grièvement blessées. C'est le bilan d'un accident survenu ce lundi dans une mine de charbon des Asturies dans le nord-ouest. Selon la presse locale, une machine a explosé. 2 jours de deuil ont été décrétés par le président de la région. Une région déjà touchée en 2013 et en 1995 par des coups de grisou.
Allez, direction à présent Londres, dans la capitale britannique, où depuis ce matin, les représentants d'une quarantaine de pays sont réunis, cela pour 2 jours. C'est un sommet sur la lutte contre l'immigration clandestine.
Oui, un sommet inédit. L'immigration clandestine, c'est l'une des priorités du gouvernement travailliste britannique depuis son retour au pouvoir en juillet dernier. Mais un nouveau record d'arrivée au Royaume-Uni a quand même été battu depuis le début de l'année, avec en 3 mois plus de 6600 personnes qui ont réussi à traverser la Manche. En ouverture du sommet, le Premier ministre Keir Starmer a appelé la communauté internationale à s'unir pour éliminer les réseaux de passeurs.
L'immigration illégale est un facteur majeur d'insécurité mondiale. Elle compromet notre capacité à contrôler qui arrive sur notre territoire. Cela met les gens en colère et cela me met en colère franchement. Parce que c'est injuste pour les travailleurs ordinaires qui en paient le prix et c'est injuste pour les migrants illégaux eux-mêmes parce que ce sont des personnes vulnérables qui sont impitoyablement exploitées par des gangs ignobles. Nous devons donc chacun prendre des mesures décisives dans nos propre pays pour y faire face. Personne ne peut douter du fait que les gens que nous servons veulent que ce problème soit réglé. Mais en vérité, nous ne pourrons éliminer les réseaux de passeurs une fois pour toutes que si nous travaillons ensemble. Parce que ce commerce diabolique exploite les failles entre nos institutions, dresse les nations les unes contre les autres et profite de notre incapacité à nous unir au niveau politique.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer. Une grève de 2 jours a démarré ce lundi dans l'audiovisuel public français, Radio France, France Télévisions et France Média Monde, dont fait partie RFI, pour protester contre un projet de holding commune. En lieu et place des programmes, de la musique est diffusée sur les antennes de plusieurs stations. Le texte de réforme doit être présenté à l'Assemblée nationale le 10 avril, mais il pourrait être décalé. Explication Isabelle Chenu.
L'an dernier, la dissolution de l'Assemblée nationale avait coupé court au projet de réforme de l'audiovisuel français. Mais le gouvernement reste déterminé à créer sa holding. La ministre de la Culture, Rachida Dati, défend la nécessité de créer un groupe audiovisuel public fort, plus agile face à la concurrence du privé et des plateformes de streaming. L'objectif est de regrouper sous la houlette d'une société mère baptisée France Média, France Télévisions, ses 6 chaînes et son site internet, Radio France et ses 8 stations de radio et l'Institut National de l'Audiovisuel pour ce qui est des archives. Le sort de France Média Monde, qui regroupe RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia, est pour l'instant incertain. Les syndicats parlent de risque de démantèlement des entreprises existantes. Ils dénoncent un projet dont le but serait de faire des économies. Dès 2017, le président Macron s'était engagé à mener à bien cette réforme. Mais d'autres urgences, dont l'épidémie de Covid, avaient perturbé les priorités. Rachida Dati devra maintenant faire voter le texte au Parlement pour une réforme qu'elle continue d'espérer opérationnelle au 1er janvier 2026.
Et puis on a appris la mort d'Yves Boisset, le cinéaste français avec 86 ans. Il aura marqué le cinéma engagé des années 70, parlant de sujets forts, le racisme ordinaire, l'affaire Ben Barka, ou encore la guerre d'Algérie, dont il a été un des premiers réalisateurs à s'emparer. RFI 20h15 à Paris, 18h15 en temps universel, c'est la fin de ce journal. Romain Ozoui, je vous laisse la parole.
Eh bien merci, c'était le grand journal du soir. Merci beaucoup à vous Christophe Paget. Dans quelques instants, notre édition spéciale, alors que Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement National en France, est en train de s'exprimer suite à sa condamnation pour détournement de fonds publics. On en parle juste après les sports. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Romain, bonsoir tout le monde.
On commence pas avec le football ce soir, du tennis.
Bah oui, pourquoi pas.
On va évoquer la sensation Yacoub.
Oui, Yacoub.
Vous avez fait une petite faute de frappe.
Yacoub, oui, je vous mets des petits pièges pour voir si vous connaissez
nuit.
Le tennis vraiment.
Oui, ouais, du Masters 1000 de Miami. On va l'évoquer, mais d'abord, quelques nouvelles du futur retraité. C'est facile à dire, lui, Richard Gasquet.
Lui, vous le connaissez bien. Effectivement, le Biterrois de bientôt 39 ans qui dispute les tout derniers tournois de sa carrière. Il a fixé son départ à la retraite à l'issue du prochain Roland-Garros. À peine remis d'une blessure aux adducteurs, Richard Gasquet a remporté son premier match au tournoi de Bucarest tout à l'heure. Une victoire en trois manches après avoir été mené 6-4 et 4-1 double break par le néerlandais Botik van de Zandschulp. Vous le connaissez.
Évidemment.
Lui, évidemment. Il l'avait précipité à la retraite Rafael Nadal l'automne dernier à Malaga. Il a également battu Novak Djokovic tout récemment. Indian Wells, Richard Gasquet a donc vengé l'honneur des anciens. Le français désormais 148e mondial affrontera l'italien Flavio Cobolli au prochain tour.
Alors lui je ne connais pas par contre. Alors le jeune tchèque, on en vient, Jakub Mencik, qui a donc créé la surprise en remportant le Masters 1000 de Miami.
À 19 ans, Jakub Mencik a décroché le premier titre de sa carrière, de surcroît l'un des plus relevés du circuit et cerise sur le gâteau. Face à son idole, Novak Djokovic, qui l'avait d'ailleurs chaperonné durant ses années juniors en l'invitant plusieurs fois à s'entraîner avec lui. À croire que le Tchèque a bien assimilé les conseils du Serbe, puisqu'il l'a dominé 7-6, 7-6 en finale, affichant une grande maîtrise face à un Djokovic mal à l'aise sur un court encore humide après la pluie et à l'œil gonflé par une conjonctivite. Bref, un mauvais jour pour l'ancien numéro 1 mondial qui visait le 100e titre de sa carrière, le plus beau jour de sa jeune carrière en revanche pour Jakub Mencik aux anges après son sacre.
Je ne réalise pas encore. Pour être honnête, je ne sais pas quoi dire. C'est juste incroyable. C'est probablement le plus beau jour de ma vie. J'ai super bien joué, je suis très content de cela. J'ai réussi à laisser ma nervosité en dehors du court pour être performant pendant tout le match. Je suis très heureux, mais je pense que je ne réaliserai ce que j'ai fait que plus tard.
Jakub Mencik qui grimpe ainsi à la 24e place du classement ATP, un gain de 30 échelons, plus 3 pour le premier français Arthur Fils, désormais 15e mondial. L'italien Yannick Sinner est toujours leader. Côté féminin, Arina Sabalenka, titrée samedi à Miami, reste la reine devant Iga Swiatek et Coco Gauff. Gros gadin pour Caroline Garcia qui se retrouve au 101e rang mondial, l'ancienne numéro 4 qui sort du top 100 après 12 années de présence.
Allez le foot, on y vient quand même, c'est avec cette mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille.
Oui, le pilier de la défense marseillaise, Leonardo Balerdi, sera absent plusieurs semaines. La faute à une entorse au genou gauche subie samedi à Reims. L'OM espère le voir retrouver les terrains avant la fin de la saison. Outre-Manche, Arsenal au contraire est tout heureux de récupérer Bukayo Saka. L'international anglais s'était sérieusement blessé à la cuisse il y a 3 mois. Demain, son indisponibilité pourrait prendre fin lors du match face à Fulham, comptant pour la 30e journée de Première Ligue. En tout cas, il est prêt, a annoncé tout à l'heure son entraîneur Mikel Arteta.
Bukayo Saka est prêt à rejouer. Toutes les précautions ont déjà été prises. Maintenant, il s'agit de le faire jouer au bon moment. Mais il pousse parce qu'il a vraiment envie de rejouer. Nous avons respecté le calendrier et nous avons dû le retenir. Mais il est prêt à y aller maintenant. Avec lui, nous avons une autre arme de taille. Nous savons l'impact qu'il a sur l'équipe et l'importance de son rôle et de sa contribution à notre succès. C'est donc très bien qu'il soit de retour.
Bukayo Saka qui, avant de se blesser, avait inscrit 9 buts, toutes compétitions confondues avec Arsenal.
Bien, merci Eric Mamrut, c'était le journal des sports sur RFI, 20h19 ici à Paris.
RFI Soir,
édition spéciale,
Romain Ozoui.
Et soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez, c'est donc un séisme politique en France, mais les conséquences dépassent largement l'Hexagone, déjà car il s'agit d'une affaire européenne, l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du FN, qui a connu donc son épilogue ce lundi et qui touche cet épilogue, et bien Marine Le Pen de plein fouet, condamnée la chef de file des députés RN, eh bien, à 4 ans de prison, condamnée également, et surtout, pourrait-on dire, à 5 ans d'inéligibilité. À ce stade, donc, Marine Le Pen ne pourrait pas être candidate à la prochaine présidentielle en 2027. Mais la chef de file des députés Rassemblement National a annoncé son intention de faire appel. Reste la grande question, un deuxième procès pourra-t-il se tenir avant cette échéance, l'élection de 2027. Marine Le Pen, qui s'exprime actuellement devant notre écran de TF1, le journal télévisé, on suit évidemment ses déclarations, on les commente, on les analyse. On va faire réagir aussi nos invités politiques dans la deuxième partie de cette édition spéciale. Jusqu'à 19h, temps universel, ça fait réagir au-delà de l'Europe. Nous irons notamment à Washington ainsi qu'à Moscou et évidemment à Bruxelles. Soyez les bienvenus.
RFI Soir,
édition spéciale.
Romain Ozoui.
Et on va écouter cette première réaction, donc depuis sa condamnation pour détournement de fonds publics. Sa première réaction, c'était il y a quelques instants, dans le journal télévisé de TF1, première réaction de Marine Le Pen.
La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Il ne m'en fallait pas plus, j'avais compris.
Bonsoir Aurélien de Bernois.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Chef adjoint du service politique et merci à vous d'être présent dans cette édition spéciale. On a entendu cette première réaction de Marine Le Pen, finalement qui affirme que la magistrate l'empêche, avec cette condamnation, donc à 5 ans d'inéligibilité, d'être candidate à l'élection présidentielle. Donc on comprend que la ligne de conduite finalement de la chef de file des députés RN va être la, entre guillemets, la victimisation dans ce, désormais.
Alors... Pas complètement. En fait, c'est une ligne très offensive qui est en train de développer Marine Le Pen en ce moment, c'est-à-dire qu'elle est en train d'expliquer que la justice telle qu'elle a été rendue aujourd'hui est politique, qu'elle ne respecte pas l'état de droit et qu'elle correspond à ce qui peut être fait dans des régimes autoritaires. Ouais. Donc c'est vraiment une remise en cause totale et complète de la décision de justice qui a été rendue. Donc c'est vraiment une Marine Le Pen à l'offensive plutôt que dans une posture de victime, même
après,
si évidemment...
Après, la victimisation tout en étant
voilà, offensive. Tout à fait. Elle s'estime victime de ça. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a de la victimisation, mais moi, je la trouve plutôt, pour l'instant, très, très offensive ouais. Et sur un positionnement qui est quand même un petit peu dangereux, parce que dans le même temps, elle dit... Elle fait appel à la justice pour dire il faut que mon appel, mon procès en appel se fasse le plus vite possible.
Il faut que la justice
donc,
se hâte.
Exactement. Dit, ouais. Donc il y a une forme de contradiction quand même entre d'un côté dire à la justice il faut que vous vous dépêchiez, il faut que vous m'écoutiez, que vous me respectiez, et de l'autre côté elle dit de toute façon moi je ne vous respecte pas parce que je considère que vous avez des motivations politiques. Donc c'est un peu contradictoire en tout cas dans ce que je comprends dans un premier temps.
Bonsoir Virginie Martin.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et professeure chercheuse à Catch Business School, co-responsable du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Comment est-ce qu'on peut analyser cette première prise de parole de Marine Le Pen? Alors, sa première réaction, ça a été une décision politique. Elle lance, vous avez entendu ce qu'a dit Aurélien de Vernois, est-ce qu'on peut dire qu'elle lance un bras de fer avec les juges?
D'une certaine manière, mais aussi elle lance forcément, il faut qu'elle rassure quand même ses électorats. Et ça, c'est très important que les électorats soient amenés à terme à voter pour Bardella, pour elle ou pour je ne sais qui du RN. C'est important quand même qu'elle fasse, si vous voulez, qu'elle déroule le discours attendu d'une république des juges, d'une démocratie qui est exécutée, comme l'ont dit à la fois Marion Maréchal Le Pen et Jordan Bardella. Et donc, il lance d'ailleurs ce hashtag « Sauvons la démocratie ». Donc on voit bien que c'est leur ligne de défense et quelque part c'est aussi ce que leurs électeurs attendent d'une certaine manière, c'est-à-dire le RN et le FN par le passé, toujours mis au banc de la société, toujours avec cette volonté de les mettre de côté, etc., de les sortir de l'arc démocratique. Ça c'est très important, donc quelque part elle ne pouvait pas faire autrement parce que c'est le champ lexical et c'est la rhétorique du RN éternellement. Mais c'est vrai aussi qu'en demandant à ce que la justice se hâte, qu'elle lui permette quand même d'être présente en 2027, c'est certain que ce bras de fer peut aussi braquer l'esprit, si vous voulez, l'ambiance. Maintenant, bien entendu aussi, elle devrait dire ce qu'elle ne dit pas, que quand même, a priori, il y a une séparation des pouvoirs en France, que la démocratie quand même suit son cours. Vous voyez, il y a quelque chose un peu d'agressif dans tout cela. Et surtout, et ça a été sa défense depuis le début, avec son avocat qui fait les plateaux télé ce soir, ça a toujours été... On est innocent, et c'est simplement un différend administratif. C'est la grande différence entre François Bayrou qui a dit bah, « peut-être qu'on a effectivement fait des erreurs, mais moi je le savais pas, vous voyez ?» Et donc il y a eu relax. Là, il y a quelque chose, c'est une réaction immodeste. Et ça, je crois que ça ne leur sert pas forcément, même si politiquement, ça sert évidemment leur storytelling.
Restez avec nous, évidemment, Virginie Martin, pendant cette édition spéciale. Nous sommes en ligne à présent avec le porte-parole du Rassemblement National, député des Vosges, Gaëtan Dussausset. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, effectivement, Marine Le Pen dénonce des pratiques réservées au régime autoritaire, je cite, et en même temps, elle demande que la justice se hâte. Comment est-ce que les deux sont possibles ?
Écoutez, ce à quoi nous sommes confrontés depuis ce matin, en réalité, c'est une décision non pas de justice, mais une décision politique, et qui a créé un véritable scandale démocratique dans notre pays, parce que à partir du moment où une décision dite de justice empêche des millions de Français de pouvoir choisir librement leurs élus à la prochaine échéance présidentielle, ça pose une véritable question de la santé démocratique de notre pays. J'entendais beaucoup parler d'état de droit, mais là, l'état de droit a été méprisé, il a été piétiné par cette décision-là, parce que dans un pays démocratique et dans un pays d'état de droit, eh bien, toute personne, tout justiciable a la possibilité de faire appel, et cet appel est suspensif. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous retrouvez, à partir du moment où vous faites appel, votre pleine et entière présomption d'innocence. Et c'est ce droit-là qu'on refuse aujourd'hui à Marine Le Pen. Ça pose un véritable problème.
Alors, Marine Le Pen qui, à l'instant, affirme qu'en aucune manière, elle se retire de la vie politique. Donc, l'heure n'est pas à passer le flambeau au président du parti, Jordan Bardella. Va demeurer pendant peut-être des années une incertitude sur la possibilité pour le RN d'être candidat à la prochaine présidentielle.
Mais c'est surtout que nous sommes toujours aux côtés de Marine Le Pen et là pour la soutenir. Vous savez, moi je suis un jeune député de 30 ans, j'ai adhéré à l'époque au Front National, devenu Rassemblement National quand j'avais 17 ans, justement pour soutenir Marine Le Pen et la voir un jour entrer à l'Élysée. Et de fait, on a envie qu'elle y parvienne. Et c'est pour ça, comme des millions de Français, on ne supporte pas l'idée qu'on puisse aujourd'hui l'en empêcher, non pas en la battant dans les urnes, non pas en menant ce combat dans les campagnes électorales, dans les campagnes politiques, mais tout simplement par la simple décision d'une magistrate qui, je le rappelle, s'est engagée justement dans la justice parce qu'elle se disait émerveillée et estomaquée par les discours d'Eva Joly. Souvenez-vous, une candidate écologiste à l'élection présidentielle de 2012 qui n'a fait que 2%. Donc oui, évidemment, on est profondément indigné et on est là pour soutenir Marine Le Pen jusqu'au bout. Alors il y a encore des possibilités de recours. On espère aussi que la justice entendra justement le trouble à l'ordre public qu'elle vient de créer par sa décision et que donc elle donnera la possibilité peut-être d'accélérer sur l'appel pour faire en sorte que l'on ne fasse pas, qu'on ne crée pas un précédent dans l'histoire constitutionnelle et dans l'histoire judiciaire de notre pays.
Aurélien Devernois.
Monsieur Dussausset, est-ce que jouer cette carte-là, de continuer de dire le RN, le FN, dans ce que les pratiques lui sont reprochées au sein du Parlement européen, est innocent, ça n'est pas arrivé, est-ce que finalement ça ne vous dessert pas quelque part ? Est-ce que à un moment, il n'aurait pas fallu changer de stratégie de défense, faire peut-être amende honorable pour essayer justement d'éviter ce que vous considérez comme une dérive judiciaire ?
Mais si vous me permettez, monsieur, on ne choisit pas ce que l'on dit, on ne choisit pas ce que l'on pense à des fins de stratégie. Si on est innocent, on est innocent. Et on apporte la défense pour pouvoir démontrer que nous sommes innocents. Parce qu'à ce moment-là, moi j'entends bien, mais si jamais nous n'étions pas défendus, qu'est-ce qu'on nous aurait dit au contraire ? On nous aurait dit, vous ne dites rien, vous ne défendez pas, vous essayez pas de faire valoir votre innocence et donc que vous êtes coupable. Or, nous le disons haut et fort, nous sommes innocents.
Mais le réquisitoire et le verdict sont tout de même, le réquisitoire en tout cas était accablant dans les sommes détournées, dans le nombre de contrats concernés, une cinquantaine, dans la durée des faits reprochés, c'est quasiment pendant 10 ans, ce n'était quand même pas anodin et c'est quand même difficile d'imaginer que tout a été fait dans l'ignorance totale et notamment que Marine Le Pen n'en ait jamais rien su.
Gaëtan Dussausset, on va écouter évidemment votre réaction. On va marquer une toute petite pause pendant cette édition spéciale et évidemment on vous reprend juste après ainsi que nos autres invités, nos correspondants, édition spéciale qui se poursuit sur RFI pendant encore 30 minutes.
découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.